Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la Fabrique de la Culture. La saison dernière, Anaïs nous avait fait découvrir l'univers des spectacles LSF en langue des signes française. Se posait alors cette question au sein de l'équipe de la Fabrique, une équipe bien portante et facilitée par la vie. Mais au fait, comment font les malentendants, les déficients visuels, les handicapés physiques ou psychiques pour accéder à la culture? À Bourg-en-Bresse, il ne m'est encore jamais arrivé de voir un spectacle, un concert avec une personne en situation de handicap sur scène. Parfois, dans le public, dans les salles aménagées, les grandes salles, on peut voir des personnes en fauteuil roulant. Mais quid des déficients visuels, par exemple? Imaginez-vous au théâtre avec un voisin qui ne voit rien et une personne à côté de lui pour lui décrire ce qu'il se passe sur scène. On serait tous, nous, valides, un peu interloqués, non? Cette question de l'accessibilité de la culture aux personnes handicapées se pose de manière très concrète. Comment accéder à une salle, à un bâtiment, lorsqu'il n'est pas forcément aménagé? Mais surtout, comment accéder à un univers qui ne concentre que des personnes valides, qui ne me représentent pas? Culture et handicap, c'est le thème de cette émission. Pour m'accompagner, Catherine Léger, bonsoir.
Bonsoir.
Au sommaire, rencontre avec Alain Goudard. Il est le directeur artistique de l'association Résonance Contemporaine. Et reportage auprès de la compagnie iJinx Theatre. Cette compagnie galloise présentait Meet Fred, un spectacle autour de Fred, une marionnette qui voudrait tout simplement être un gars normal.
Radio B. Radio B.
Alain Goudard, vous êtes le directeur artistique de l'association Résonance Contemporaine. Bonsoir.
Bonsoir.
En 2017, un rapport du Sénat pointait du doigt l'accessibilité de la culture pour les personnes en situation de handicap. Alain Goudard, quel est votre regard sur l'accès à la culture des personnes en situation de handicap?
Alors il est un petit peu multiple, on va dire, et j'entendais dans vos propos de début d'émission justement le constat que vous faisiez. Alors il est tout à fait encore réel, très réel, à la fois dans les salles de spectacle. On veut dire que quand même il y a un effort assez considérable. Il y a la loi de février 2005 qui était quand même un insuffleur à un moment donné.
On peut rappeler ce qu'elle disait.
Voilà, c'est-à-dire que du coup, particulièrement pour ce qui nous intéresse de la culture, en tout cas elle oblige tous les établissements publics qui ont donc une action de transmission de culture à accueillir justement tous les publics et à se mettre en capacité, que ce soit au niveau des équipes, vous évoquiez aussi le bâti, en tout cas de se mettre en capacité pour permettre l'accès aux lieux, mais aussi, et ce qui me paraît aussi d'autant plus important, l'accès au contenu. Et c'est vrai que on peut quand même souligner globalement, hein, si on fait un constat global comme ça, il y a effectivement plus de personnes en situation de handicap, quelles qu'ils soient, qui ont accès à la culture en général, que ce soit dans les établissements médico-sociaux, dans certains lieux de culture, parce qu'il y a aussi des phénomènes incitateurs suite à cette loi, c'est-à-dire qu'un théâtre municipal, c'est-à-dire qu'un musée, c'est-à-dire que des cinémas, voilà, tout ça, toutes ces institutions culturelles chargées de transmettre ont quand même travaillé là-dessus. Après, là, quand même, où il y a encore beaucoup à faire, vous le souleviez également dans votre début, c'est la présence de personnes en situation de handicap sur le plateau. Là, on trouve d'autres problématiques qui concernent à la fois peut-être comment toutes ces personnes ont encore accès aux pratiques artistiques en tant que telles, c'est-à-dire tous les lieux où on peut pratiquer la culture ou de la pratiquer de manière différente, parce que la personne en situation de handicap aussi fait que ce soit sur un terrain pédagogique d'accès ou autre, on a quelqu'un qui fonctionne avec ce qu'elle a, avec ses singularités. Et donc, du coup, ça demande aussi à adapter un certain nombre de choses de comment je le fais. Donc, ça bouscule aussi les schémas habituels, on va dire, de transmission, par exemple, d'art plastique et puis, ou de la musique ou toutes les disciplines artistiques. Et puis peut-être après, l'autre aspect qui n'est pas moindre quand même, c'est l'entre-soi de la culture et la hiérarchie de l'art qui lui impose de toute sa force aussi une espèce de tolérance à certains moments donnés, mais qui est une légère petite tolérance et qu'il aime bien mettre de côté quand même tous ceux qui dérangent.
Résonance Contemporaine est un pôle ressources, culture et handicap. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, ça veut dire, c'est vrai que ça appartient quelque part aussi à l'histoire. Alors pour nous, après, je pourrais revenir plus sur l'idée du pôle ressources. Et nous, un pôle ressources, en tout cas, comme on essaie de le réfléchir au sein de l'association, c'est-à-dire c'est déjà une équipe qui est très engagée sur le terrain. Donc effectivement, au travers de ces deux ensembles au quotidien, que sont les percussions de Tréfort, qui mêlent depuis bientôt 40 ans maintenant.
On en parlera,
je crois. Donc des personnes en situation de handicap mental et des musiciens, voilà, c'est un peu difficile pour moi, parce que maintenant on ne parle plus dans ces termes-là, mais c'est pour que ça soit clair pour nos auditeurs, qu'effectivement il y a ce mélange. Ce qui est important, c'est le mélange, et la culture doit permettre ce mélange. Et puis les six voix solistes, donc on est engagé dans un travail autour de la création musicale, et l'objectif était bien de montrer, non pas que résonance contemporaine, parce que quelquefois il est plus perçu par les percussions très fortes et a peut-être une orientation sociale, elle en a une, mais c'est la création qui finalement est le moteur de rencontre de ces deux ensembles. Et donc au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que nous sommes inscrits dans le temps, eh bien des lieux de formation, des lieux de réflexion nous ont toujours questionnés. Donc finalement une question de pôle ressources, parce qu'on se situait dans des manières d'accompagner, que ce soit des acteurs de la culture ou du médico-social, dans des espaces de formation. Donc c'est fait jour, toutes ces missions autour du travail artistique, d'où les raisons de pôle ressources sur les notions de culture, de handicap et de musique contemporaine.
Concrètement, quelles actions est-ce que vous mettez en place pour faciliter l'accès à la culture aux personnes en situation de handicap ?
Alors du coup, ça va se situer, quand je parlais déjà d'accompagner plein d'acteurs, donc des formations initiales, par exemple très régulièrement, les centres de formation de musiciens intervenants en milieu scolaire qui vont eux se retrouver en première ligne dans les écoles, et dans ce type, on a de multiplicités d'interventions dans les formations initiales. On a aussi, on parle pour ici, par exemple, des lieux de formation pour les moniteurs éducateurs, là aussi sensibiliser ces personnels et ces futurs professionnels, donc avec la DEA par exemple, ou avec l'IREIS, qui sont deux institutions ici, Bressane, mais voilà, il y a début de la semaine, j'étais donc à Besançon, en lien avec le CNFPT, avec la Mission Voix aussi sur cette région, et on discutait avec une multiplicité d'enseignants, de profs de musique sur les pratiques amateurs, parce que ça c'est aussi l'autre aspect qui me semblerait aussi important.
Oui, souvent on confond pratique amateur et pratique par une personne en situation de handicap, il y a souvent...
C'est ça, c'est du coup comment on catégorise un petit peu les choses. On a tendance à dire, bah oui, il y a peut-être une pratique spécifique pour travailler avec une personne, vous parliez de personnes malvoyantes ou sourdes ou handicap psychique. Je crois qu'il y a une pratique musicale en tant que telle. Et voilà, après, c'est une question de comment je suis à l'écoute de l'autre, et c'est ça qui va être extrêmement important. Mais en même temps, situer la personne en situation de handicap avant tout comme un amateur, c'est déjà enlever des étiquettes qu'on lui pose. Et après, tout simplement, un amateur, il a besoin de lieux, il a besoin de gens compétents pour l'accompagner. Il a besoin d'endroits où il peut montrer ce qu'il est en train de faire, rencontrer ceux et celles qui pratiquent la musique à d'autres endroits, et c'est cela qu'il a besoin. Et donc là, vous voyez, on repositionne totalement un petit peu les choses, que simplement pour identifier une pratique artistique spécifique pour un public spécifique qui me semble de toute façon pas avoir lieu.
Vous l'avez dit, hein, résonance contemporaine agit au cœur du sujet, hein, du côté de la création, de l'accès à la pratique artistique. La culture, c'est aussi la diffusion de spectacles. Mmh. Est-ce que vous jouez aussi un rôle pour valoriser les spectacles accessibles aux personnes en situation de handicap ?
Alors nous essayons tant faire se peut, dans le sens où Résonance n'a pas cette mission d'accueillir des spectacles d'autres faits, puisqu'on est déjà très, très occupé, si je peux dire, par ça, mais n'empêche que pour aussi évoquer cette présence dans le cadre de la diffusion et notamment avec les percussions très fortes, on a une grande opportunité aujourd'hui, et ça c'est le temps qui le permet, mais d'être présent dans des programmations qui sont autres que celles simplement organisées par des structures du handicap ou qui ont une raison autour du handicap, dans le sens où on est présent dans des scènes nationales, on est présent dans des festivals de musique contemporaine. C'est peut-être grosso modo sur une diffusion nous d'année, pas loin de 80% de notre production est déjà dans le milieu un peu ordinaire. Après, les 7 bis chemin de travers servent aussi régulièrement, autant que nous pouvons le faire, en tout cas à être aussi tout à fait dans cet esprit de mélange, de pluridisciplinaire et aussi de production réalisée aussi par ces personnes. Et puis, on a aussi l'occasion très régulièrement dans cette maison qui est la vôtre, par le biais de l'émission Résonance, d'être sur le terrain énormément pour aussi valoriser ce travail de terrain. Et c'est là où je pense que là, c'est un outil formidable de donner la parole aussi à ces personnes, où on peut avoir tendance, alors que ce soit sur un point de vue aussi artistique, aussi également, ou autre, plutôt entendre ces paroles comme du bruit, non pas comme de la vraie parole. Et là aussi, il y a un problème d'interprétation, ça rejoint votre question aussi. Dès que si une formule artistique est proposée par des personnes en situation de handicap, comment on l'entend, comment on l'interprète, qu'est-ce qu'on lui donne comme sens, sous-entendant qu'effectivement, la base essentielle où on peut se retrouver et qui est, je pense, indispensable à tenir, c'est l'exigence du projet artistique et de l'exigence artistique qui est menée avec ces personnes. Si là-dessus, on est clair, Ben voilà, il n'y a pas de raison aussi qu'on lui mette une étiquette supplémentaire.
Résonance contemporaine, parmi toutes ces missions, favorise l'accès à la pratique artistique aux personnes en situation de handicap, on en a parlé. Et c'est ce qui manque, hein, selon le rapport Culture et Handicap présenté par le Sénat en 2017. Ça se concrétise notamment avec vous et les percussions très fort. Elles fêteront leurs 40 ans en 2019.
Complètement.
Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cet ensemble et la genèse?
Alors la genèse, elle rejoint un petit peu les propos que vous évoquiez là, en évoquant le rapport du Sénat. C'est-à-dire qu'il faut remonter dans les années donc 79 dans notre territoire ici de l'Ain. Et là aussi, il y avait des gens qui étaient là et qui avaient le souci déjà de se dire comment la musique peut être pratiquée par tous les publics. On était encore loin de la pratique aussi à l'école avec les enfants, donc ça se posait au même titre que les personnes âgées, que les personnes souffrantes ou malades à l'hôpital, ou bien évidemment
la musique pratiquée par d'autres personnes que des musiciens, passés par le conservatoire.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on avait encore, que le lieu, le chemin, en tout cas, par lequel on pouvait avoir accès à la musique, étaient ces institutions que nous connaissons les uns et les autres. Et donc, d'autres personnes essayaient de se poser cette question. Ça ne veut pas dire qu'il fallait exclure ces institutions, mais comment, en complémentarité de celles-ci, on pouvait quand même engendrer des pratiques pour que d'autres puissent avoir accès facilement à la musique. Alors, il y a des personnalités ici, à Bourg-en-Bresse, qui travaillaient autour de ces chœurs. Je pense à des Gérard Rotelin et des André Caillot, qui vont être des personnes très importantes, justement, parce qu'ils vont permettre aussi un échelon national, avec d'autres, bien entendu, mais que les CFMI, les centres de formation de musiciens intervenants en milieu scolaire, une profession qui n'existait pas, que moi j'ai, justement à cette époque-là, on appelait ça des animateurs musicaux, c'était pas encore une profession en tant que telle, vont permettre une professionnalisation et donc du coup d'étendre un peu tout ça. Donc cette aventure, elle est faite simplement qu'à un moment donné, il y avait une posture comme ça, où moi je côtoyais ces gens qui nous mettaient dans un certain état d'esprit, et puis bien sûr, il y avait des institutions où il commençait de se passer des choses, et là tout simplement, M. Chevalier, qui était le directeur de l'ESAT de Tréfort, l'établissement d'aide par le travail dépendant de l'aide à Pays de l'Ain, tout à côté entre Saint-Étienne-du-Bois et Tréfort, a souhaité qu'à un moment donné, on puisse prendre le relais d'un début de travail mené par un éducateur. Et à partir de là, donc lui les avait entraînés un peu dans de la percussion, et à partir de là, voilà, cette aventure a commencé de se faire. J'ai essayé, je n'avais jamais fait ce genre de pratique, c'était une première expérience pour moi, et je continue d'essayer. Donc du coup,
Quel bilan, entre guillemets, peut-on dresser après 40 années de travail commun?
Alors, c'est déjà une chance. Pour moi, en tout cas, d'avoir pu mener une aventure comme celle-ci, surtout de côtoyer des musiciens pendant plus de... Voilà, ceux qui ont encore... On a encore des musiciens qui sont de la genèse, et donc on a ensemble pas loin de 40 ans de pratique, d'autres 20 ans, d'autres 10, 15, 20. Donc c'est quand même une chance assez extraordinaire de pouvoir cheminer avec l'ensemble de ces musiciens autour de ces pratiques. Puis après, de pouvoir avoir pu démontrer, parce que je pense qu'aujourd'hui ça l'est, qu'on peut mener dans le temps une expérience artistique de qualité avec ces personnes. Et si autant, aujourd'hui, il y a plus de 50 compositeurs français et étrangers qui ont écrit pour cet ensemble, on pourrait citer une pléiade d'artistes qui sont intervenus à nos côtés ou qui vont continuer d'intervenir à nos côtés et qui ne le font pas non plus sur un aspect compassionnel, mais on se rejoint bien, je parlais d'exigence artistique, nous rejoignent bien sur la démarche et sur l'exigence artistique. Tout ça, c'est aussi des éléments qui concourent à dire qu'effectivement, ça valait le coup de lancer cette entreprise-là. Et puis après, si on le regarde sur un point de vue plus institutionnel aussi aujourd'hui, le fait qu'un ministère de la Culture, comme tous les ensembles professionnels, il aide aussi les ensembles professionnels, on est passé par toutes les étapes, l'aide au projet, l'aide à la structuration, et ça fait 9 ans que les percussions de Tréfort, avec les 6 voix solistes, bénéficient de ce qui n'est accordé qu'aux ensembles professionnels, d'une aide au conventionnement. On vient d'être renouvelé à nouveau pour 3 ans. Ça, c'est déjà un fait d'abord qui va servir à d'autres, et ça c'est extrêmement important. C'est-à-dire, du coup, d'autres qui mènent ces démarches-là peuvent aussi se dire, ben voilà, il y a des précédents, donc du coup, pourquoi pas nous? Et il faut qu'il y en ait d'autres. On est un peu trop seul, si je peux dire aussi là-dessus. Mais en tout cas, c'est une pierre assez indispensable. Et nous avons le même cahier des charges que n'importe quel autre ensemble professionnel, c'est-à-dire un rayonnement qui doit être départemental, régional, international, travailler aussi avec des publics différents, être dans le cadre de formation, être dans le cadre d'action culturelle. Donc ça veut dire que là, on est considéré au même degré et on doit remplir le même cahier des charges. Donc voilà, si on mesure un peu tout ce parcours, voilà, c'est un combat quotidien. C'est vrai qu'il ne faut rien lâcher. On a peut-être aussi, je pouvais sous-entendre dans vos propos aussi un peu ça, dans votre propos d'introduction, la partie n'est pas gagnée. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a peut-être aussi un peu quelques retours en arrière aujourd'hui.
Notamment donc sur le handicap. Hein, le président Macron a aussi rogné sur certaines aides.
Absolument. Puis même quand on voit au bâti que l'Assemblée nationale, avant il y avait quand même un calendrier défini de date, aujourd'hui il n'y en a plus. Donc ça veut dire
beaucoup de dérogations ont été posées,
même si on sait que ça pose, et bien sûr, des problèmes économiques, des problèmes financiers. Je pense aux commerçants, on peut penser, voilà, ça provoque. Voilà, mais c'est comment une société, finalement, dans sa globalité, elle veut bien laisser une place à tout le monde. Et je pense que l'intérêt, finalement, aussi, d'aborder cette question de l'accès à la culture, au sens large, des personnes en situation de handicap, c'est que du coup, ça oblige à une redistribution des rôles, des espaces, des compétences. Et c'est ça qui est en jeu. Alors, on sent que c'est une lame de fond très importante parce qu'elle vient questionner l'ensemble de notre fonctionnement du commun et que plutôt de parler de handicap, on pourrait parler de singularité. Nous avons tous nos propres singularités et je pense que si on le place sur cet aspect-là, on change complètement le paradigme. Mais veut-on véritablement changer ce paradigme? C'est toute la question et on sent que toutes ces choses-là sont en tension et on le voit bien encore d'autant plus que tout ce qui est de l'étrangeté, tout ce qui est différent aujourd'hui, et là on pourrait pousser jusqu'aux migrants, on pourrait pousser à toute cette situation, elle n'est pas étrangère non plus à des fois ce retour sur soi-même et qui fait qu'aussi se mettons en capacité d'accueillir finalement ce qui vient d'ailleurs et pas de soi.
Justement, selon vous, quelles seraient les choses à mettre en place pour que ça fonctionne plus, que culture et handicap se rencontrent de manière plus sereine, plus présente en fait, qu'on ait plus cette impression de découvrir des artistes en situation de handicap et se dire « Ah oui, ils sont capables de jouer de la musique, de jouer une pièce de théâtre. »
C'est un long chantier. Je crois qu'il ne faut pas baisser la garde. Ça veut dire de comment aussi, quelle place aussi les individus fonctionnent, mais alors quels qu'ils soient. Et là, on inclut bien sûr les personnes en situation de handicap. Quand je parlais tout à l'heure, est-ce qu'on identifie cette parole comme du bruit ou comme une parole, voyez ? À nombreuses occasions, on n'entend pas régulièrement non plus ces personnes s'exprimer sur des points de vue, sur autre. Il y a comment on articule tous ces points de vue, il y a comment on peut finalement faire en sorte que chacun. Ça demande à remettre aussi un peu en jeu la place des experts et des spécialistes, de qui décide de qui, de qui décide de quoi, et comment peut-être rechercher une égalité aussi de ces rapports. Ça demande aussi, si l'on veut, là, on touche l'autonomie, on touche les notions aussi de démocratie, mais ça veut dire que la démocratie, c'est toujours quelque chose en fabrication, c'est instable, c'est difficile, parce qu'il faut réinventer sans arrêt les rapports, mais ça demande aussi que chaque individu, quel qu'il soit, soit autant investi que les autres. Participer aux décisions d'un commun, participer aux décisions d'une ville, ça veut dire aussi que c'est un travail, ça veut dire que c'est un engagement. Donc ça voudrait dire qu'à tous les échelons, si vous voulez, il faudrait qu'on soit dans une dynamique. On a beaucoup parlé de l'action participative et il y aurait beaucoup. Bon, quelquefois, il y a des déviances dans la manière dont on parle aussi de ce côté participatif. Mais ça voudrait dire que c'est à tous ces échelons-là qu'on pourrait aussi retravailler les choses. Et je pense que la culture vis-à-vis aussi des personnes en situation de handicap, ou aussi de la santé, parce qu'il y a un énorme travail qui a été fait, et là l'État est quand même venu, parce qu'il faut aussi soulever aussi des choses, il y a des difficultés, mais il y a aussi des points positifs à certains moments donnés. Depuis plus de 20 ans, bientôt, il y a quand même une action culturelle qui s'est développée grâce à une action du ministère de la Famille, de la Santé et de la Culture, à un moment donné, pour mettre en place que la culture pénètre aussi les établissements de santé, en l'occurrence aussi les hôpitaux, en disant ça n'est pas quelque chose, même si c'est peut-être des étapes de notre vie, mais ça reste un lieu de vie, ça reste un lieu où on peut découvrir des choses, où on peut faire des choses, même s'il est maladie, le soin est là. Donc là, c'est devenu quelque chose d'important, avec des dispositifs financiers, qui sont venus aussi, à certains moments donnés, aider les collectivités départementales ou régionales, pour aussi être des passeurs de culture dans ces établissements-là. Alors voilà, je dirais, c'est toute cette complexité qui est loin d'être simple, hein, bien sûr. Et vivre ensemble, c'est finalement, c'est Jean-Luc Nancy, dans son livre Singulier Pluriel aussi, qui évoque ça, qu'il a écrit il y a de nombreuses années, mais c'est vraiment cette question, c'est comment être ensemble à plusieurs, comment être avec, c'est pas simplement une juxtaposition d'individus, mais comment on va pouvoir être avec. Et ça, ce être avec, ça se fabrique tous les jours et ça se défend tous les jours parce que c'est un acte de comment je vais être avec l'autre.
L'occasion sera peut-être donnée en 2019 pour l'anniversaire des percussions de Très-Fort. Est-ce qu'on a déjà un programme de ce qui va se passer?
Alors, il y a 30, c'est ce qui sert. En tout cas, la temporalité, elle est à peu près claire aussi. Elle commencera dans la dernière partie 2019 pour aller jusqu'à 2021. Parce qu'il y a des grands rendez-vous, parce qu'il va y avoir des moments artistiques. On va retrouver les percussions de Strasbourg qui, pour nous, sont un ensemble emblématique. Ils appartiennent à notre histoire. On s'est retrouvés à plusieurs reprises. Et là, j'espère, là, c'est en train de se discuter, mais on pourra être présent à Bourg avec ce spectacle. On sera aussi à Annecy, à Bonlieu. On sera aussi à Strasbourg. Il y aura aussi un travail avec un compositeur et aussi qui travaille beaucoup sur le mouvement, qui est belge aussi, qui s'appelle Thierry Demey, qui est quelqu'un de très important dans le milieu musical. Il y a un projet de création avec lui. Il y a plusieurs projets comme ça. Il y a un énorme chantier dont un premier élément va apparaître en fin d'année. J'ai évoqué tout à l'heure que plus de 50 compositeurs ont écrit pour nous. On a pris le pari audacieux, peut-être complètement fou là aussi, de revisiter chacune de ses œuvres et de les enregistrer. Ça, c'est grâce aussi aux collaborations internationales que nous avons. Et là, il y a un label italien, Emma Vinci, avec lequel Résonance collabore aujourd'hui, et on peut sortir grâce à eux tout ce travail. Donc, chaque année, il y a une dizaine d'œuvres là qui ont été enregistrées cette année, elles vont sortir, une dizaine de disques et DVD vont sortir, retraçant un peu tout ce travail, et qui vont être l'objet de multi-collaborations. Par exemple, à un moment donné, une œuvre nécessite plus d'instruments. Et là, par exemple, deux de ses œuvres vont nous mettre en collaboration avec deux écoles de musique de Haute-Savoie avec lesquelles nous travaillons, nous accompagnons les équipes justement à accueillir des personnes en situation de handicap. Et bien, avec les classes de percussion, on va réaliser ça. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de partenariats. Il y aura des temps réflexifs. On évoque culture et santé et par exemple Interstice. On s'est déjà rencontré à plusieurs reprises, qui fêtera aussi ses 20 ans aussi à un moment donné. Donc, il va y avoir des moments réflexifs communs aussi que nous allons organiser, donc dans l'un ou ailleurs. Là, en fin de semaine, ça débute, puisque là, on sera à Florence. Là, ça sera dans le cadre de la journée européenne des personnes en situation de handicap. Mais là, à la fois, il y aura la sortie du disque, mais en lien avec des universitaires de Rome, de Florence, on sera aussi se poser la question de l'accès à la culture aujourd'hui. Donc, vous voyez, il va y avoir plein d'événements un peu de cet ordre-là.
Un programme très chargé.
Très chargé, qui va nous occuper d'ici jusqu'à 2021, en tout cas. Mais bon, ça va être un bon moment.
Alain Goudard, je rappelle que vous êtes le directeur artistique de Résonance Contemporaine. Résonance Contemporaine qui anime une émission sur nos ondes le mardi à 13h. On connaît le sujet de la prochaine émission ?
Elle a démarré hier. Et là, c'était passionnant. Nous sommes allés à la rencontre, puisqu'on sort et qu'on va le plus que l'on peut sur... on emprunte les routes de la région et d'ailleurs. On était à Albertville. Et là, à Albertville, il y a une école. On est dans une zone d'éducation prioritaire, le quartier du Champ de Mars. Et... Là, il y a un travail qui commence à se faire autour du web radio, donc on est vraiment en plein dans ces sujets-là, avec des enfants de CE2 et de CM2. Et donc, du coup, en lien avec la conseillère d'éducation musicale et des arts, ils avaient besoin aussi de donner un petit peu plus d'ampleur à ce travail. Donc l'émission vient pour apporter aussi cette mise en valeur. Donc vous pourrez les découvrir, ces enfants. D'ailleurs, ils sont mes propres assistants, c'est eux qui donnent les signes, qui font... donc on les a amenés aussi dans la fabrication de l'émission, qui font les petits roches après les diffusions musicales. Et puis parce qu'on va les retrouver encore, il y aura deux autres émissions sur le terrain où on va continuer d'accompagner ce travail-là. Et puis il y en a une autre émission, je fais d'emblée, puisqu'il y avait les 25 ans aussi d'Ishtar pour montrer la diversité et l'écoute aussi du terrain qui fêtait ses 25 ans tout ce week-end dernier. Donc on a réalisé deux émissions avec tout ce collectif et qui prendront la suite de cette émission jusqu'en fin d'année. C'est eux qui nous accompagneront à faire le passage de 2018 à 2019.
Alain Goudard, merci.
Merci à vous surtout.
fila ubi, mano fila ubi tame. Ah, kamale on diebe, fila ubari kada, fila ubi, mano fila ubi tame.
Amadou et Mariam, les deux artistes maliens, ils avaient plongé leurs spectateurs dans le noir total lors d'un de leurs concerts pour leur faire découvrir la musique entendue et ressentie par les non-voyants. Du côté de la compagnie Aijing Theatre, c'est grâce à la marionnette que le message autour du handicap se diffuse. Catherine, nous avons rencontré la compagnie galloise. Ils étaient en représentation au théâtre de Bourg ce mardi. Tendez bien l'oreille, c'est une interview en anglais et en français, traduite en français pour vos chères oreilles d'Indinois.
Vous êtes les acteurs d'une compagnie de théâtre basée au Pays de Galles. Qu'est-ce qui vous rend différent d'une autre compagnie de théâtre ?
I suppose one thing that makes Hijinks really unique is the fact that often neurodivergent, that's the term that neurodivergent actors.
Donc Hijinks c'est une compagnie unique en son genre puisque elle a aussi créé des écoles qui accueillent des acteurs en situation de handicap, donc ce qu'on appelle inclusif. Des acteurs qui ne rentreraient pas dans des écoles de théâtre dites classiques. Donc en cela en fait Hijinks a vraiment est vraiment un point important, une part importante pour beaucoup d'entre eux.
Pourquoi le théâtre Hijinks a-t-il choisi de travailler avec des personnes en difficulté?
I mean, obviously, I can't really say 100% because I am still quite new to Hijinks. But what I can say is that when it came to creating theatre, we also found that.
Donc il est assez nouveau avec Hijinks, mais voilà, donc il reconnaît qu'effectivement Hijinks utilise donc le fait qu'ils aient des acteurs, des spectacles inclusifs permet aussi d'avoir une autre créativité et d'avoir un regard différent en fait sur ce qui se fait actuellement. Ils ont fait beaucoup de pièces classiques, etc. Mais par exemple dans l'exemple de Midfred, vous avez des acteurs donc qui sont donc en situation de handicap, on va dire. Donc, par exemple, là, vous en avez deux qui sont en situation d'autisme, et donc Gareth qui est donc trisomique, donc qui font partie entièrement de la compagnie et apportent une créativité différente. Donc, c'est chouette.
And how did the collaboration between comment s'est opérée la collaboration entre les marionnettistes de Blight Summit et les acteurs de Hijinks?
C'est que voilà, le directeur a fait un atelier avec Blind Summit, donc Blind Summit qui est la compagnie londonienne de marionnettes, et ça leur a vraiment plu. C'est comme ça que l'idée est née d'avoir un spectacle avec des marionnettes. Mais en fait, les marionnettistes que vous voyez là ne sont pas de Blind Summit, si vous voulez. Ils ont juste aider donc, l'idée du début, c'est-à-dire de former les directeurs et puis nos metteurs en scène sur le marionnettisme. Et ensuite, donc, d'aider donc, à créer ce spectacle, c'est-à-dire d'aider à conseiller, c'est-à-dire comment toucher la marionnette, etc.
Did you encounter special difficulties to...
Avez-vous rencontré des difficultés particulières dues à la manipulation de marionnettes?
Well, we don't know that because...
C'est effectivement difficile parce que c'est les marionnettistes qui font le travail avec la marionnette. Mais donc après regarder la marionnette comme un autre acteur, au début c'est un petit peu bizarre. Et puis en fait, vu qu'il rend la marionnette vivante, hein, finalement vous verrez le spectacle. Du coup, on s'habitue et puis on regarde la marionnette comme un autre acteur en fait.
So you are in Bourg-en-Bresse to play.
Vous êtes à Bourg-en-Bresse pour jouer Meet Fred, un spectacle de marionnettes. Fred est une marionnette qui veut juste être un garçon normal. Pourquoi avez-vous créé ce show?
Alors très vite, quand ils ont commencé à travailler avec la marionnette, donc c'est une marionnette qui nécessite 3 personnes, donc 6 mains, et ils se sont rendus compte que, en improvisant, donc la relation entre la marionnette et ses marionnettistes était un petit peu la même en fait qu'une personne en situation de handicap ou d'autisme avec, par exemple, l'éteint, trouver un travail, enfin tout ce qu'on appelle une société, entre guillemets bien sûr, normale. Et donc c'était important de raconter cette histoire, cette relation.
We wanted to tell and yeah, the one that we could tell in a funny way, I guess.
And during this creation, the British government reduced.
Pendant cette création, le gouvernement britannique a réduit les aides allouées aux personnes en situation de handicap. Quel est votre message à travers l'histoire de Fred?
I think one thing really reflects oppression from our government, and I don't know if other governments are the same in other places around, but in the UK government.
Voilà, donc c'est un gouvernement, la Grande-Bretagne, assez oppressif concernant les acteurs, enfin en tout cas les gens en situation de handicap. Et donc, bon, son point de vue, c'est pas si ça se passe comme ça dans les autres pays européens, mais bon, voilà, le message qu'il laisse faire passer, en tout cas dans le spectacle, c'est que voilà, c'est difficile et ces scènes qui ont l'air des fois peut-être un peu ridicules ou un petit peu trop exagérées ne le sont pas en fait. Et voilà, ce serait pour montrer, voilà, ces gens ont besoin de soutien, ont besoin d'aide, de support financier aussi. Et bon, moi, parler là de ce qui se passe en France, je pense que c'est la même chose de toute manière. Voilà, donc c'est un peu universel, hein, finalement, le message. C'est donc, voilà, ils ont besoin de soutien et d'aide. Et c'est donc souvent à travers l'art que ça se passe.
Comment une marionnette peut-elle porter un message politique?
I think the puppet can get away with a lot more. It can say things that...
Voilà, tout simplement parce qu'une marionnette va s'en sortir un petit peu mieux, dans le sens où si vous dites des choses un peu osées, risquées, ça sort de la, entre guillemets, même si c'est de la bouche d'un acteur, mais ça vient de la marionnette. Donc tout de suite, il y a une petite distance qui est créée et donc vous ne le prenez pas de la même manière.
In France, it is really exceptional.
En France, il est exceptionnel de voir des personnes en situation de handicap sur scène. Est-ce la même chose au Royaume-Uni?
Donc on commence à en voir de plus en plus. Donc c'est vrai qu'Hijinx est aussi un des précurseurs, mais au Pays de Galles, il y a d'autres compagnies, par exemple le Sherman Theatre qui est basé à Cardiff. Donc ça commence à se faire un peu plus.
And when you tour with the show, with this show, in other countries.
Quand vous tournez dans différents pays d'Europe, voyez-vous sur scène également des personnes en situation de handicap?
It's not common to come across other companies, but I'm sure there are. We met at the beginning of this tour in Erani.
Alors le fait d'avoir des compagnies qui travaillent avec des gens en situation de handicap, c'est pas forcément commun. On a rencontré quelques-unes, par exemple quand on était à Erani au nord de Paris, ils ont un festival qui s'appelle Imago, donc qui encourage justement les compagnies à travailler avec des gens en situation de handicap. Et aussi il y a une compagnie qui est basée à Séville qui s'appelle Danza Mobile, qui est une compagnie de danse qui travaille justement avec des personnes handicapées et qui est déjà venu, qui vient chaque année à Cardiff pour notre festival. Pourquoi? Donc la question c'était pourquoi Donc Tom disait que oui, c'est peut-être des fonds, en fait, tout simplement, hein, puisque beaucoup de, enfin, le gouvernement va regarder les compagnies qui travaillent avec des gens en situation de handicap comme théâtre amateur, et donc il n'y a pas de fonds ou d'argent à donner. C'est une possibilité, en fait.
Le spectacle était joué hier soir, mardi, au Théâtre de Bourg. La compagnie tourne en France, partout en Europe et même dans le monde. Suivez leur actualité, ils reviendront certainement dans le coin. C'est un spectacle à voir. Catherine, nous étions toutes les deux au théâtre hier.
Eh bien oui, c'est vraiment un spectacle à voir. Donc c'est l'histoire de Fred, cette marionnette qui peut être un gars normal, regular, mais qui n'est qu'une marionnette qu'à cela ne tienne. Il cherche un job, il cherche l'amour. Quand il cherche un job, il rencontre le conseiller Pôle emploi. Mon Dieu, mon Dieu. Très, très drôle qu'il lui propose un job de déménageur, un job de maître-nageur. Comment voulez-vous que je sois maître-nageur avec du tissu ? Et un job d'animateur pour enfants qu'il est obligé de prendre parce que sinon, on va lui baisser sa subvention, son allocation pour une marionnette. Et au lieu de 3 marionnettistes, il n'en aura plus qu'un. La scène d'amour, de rencontre via mythique est aussi très, très drôle. Bref, à travers cette marionnette, notre société est là, présente avec ses excès, ses tendresses, ses abus. Tout y est et nous nous régalons et cette marionnette est vraiment, vraiment pleine de vie. Le metteur en scène se permet de venir sur scène, de repartir, d'interrompre la marionnette et tout. Tout ça nous a donné un spectacle très drôle. Dans l'absurde, mais très, très engagé. Et je voudrais juste conclure cet enthousiaste retour en vous citant une petite anecdote bien en lien avec le thème de notre émission. La personne, l'acteur atteint de trisomie 21, lors de la création de la genèse du spectacle, avait très, très envie de manipuler Fred et d'être celui qui allait faire marcher ses jambes. L'ensemble de l'équipe a réfléchi et se sont rendus compte que c'était trop difficile. Il faut, ai-je lu, 10 années pour que 3 personnes puissent ensemble manipuler une marionnette. Imaginez le travail. C'était donc très difficile d'accéder à cette demande et en même temps... Eh bien, dans le spectacle, le marionnettiste qui disparaît suite à la baisse d'allocation est celui qui manipule les jambes. Et les jambes sont alors manipulées par cette personne atteinte de trisomie 21 qui en avait fait la demande. N'est-ce pas magnifique?
Merci pour ce retour. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que c'est à la fois un spectacle drôle, mais surtout hyper, hyper cruel. Je l'ai trouvé très cruel. Alors, c'est peut-être l'humour britannique, comme on le connaît. C'est à savoir qu'on dit en rigolant des vérités qui font quand même super mal. Moi, je me suis sentie mal à l'aise assez souvent quand même pendant le spectacle. Alors, pas un malaise qui fait que je me dis « Ah, ce spectacle est horrible », mais un malaise sur l'état de la société, effectivement, avec ce comédien metteur en scène qui vraiment insulte la marionnette, lui dit « Mais t'as qu'à te bouger les fesses, la vie c'est comme ça, allez, bah oui, bah suicide-toi ». Enfin voilà, il y a des moments quand même assez, assez cruels et... Effectivement, on s'attache assez facilement à cette marionnette qui est vraiment magnifique.
Qui prend alors que ça vie, n'est qu'un
un bout de tissu.
Bout de tissu.
qui prend vie sous nos yeux. Et j'ai trouvé aussi intéressant, pour le coup, et ça rejoint l'interview avec vous, Alain Goudard, les personnes en situation de handicap, finalement, on ne les voit pas.
Non.
On ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte de leur handicap. Ce n'est pas un handicap physique. Bon, à part, effectivement, l'acteur qui est trisomique, on le voit sur son visage. Mais les autres comédiens, on n'en a pas conscience. Ils jouent comme d'autres acteurs. Et je trouve que ça, c'est vraiment génial. Parce que je pense que le reste du public qui n'avait pas rencontré la compagnie comme nous auparavant... a pas du tout fait de distinction.
Oui, je pense que nous étions les seuls à savoir que ces deux personnes étaient atteintes de maladie. Oui, tout à fait. Ouais.
Donc c'est vraiment.
Après, moi, je dirais spectacle subversif.
Oui.
Plus que cruel, quoi.
Ouais,
subversif
ouais.
Dans la cruauté de notre société actuelle.
Mais c'est vrai que je pense que les pratiques artistiques, c'est effectivement, d'où l'importance qu'une circulation dans tous les lieux est extrêmement importante. Le terme subversif me semble aussi... C'est une des raisons, on pourrait dire que des freins existent, c'est parce qu'il y a aussi cette raison de subversivité qui est là aussi, qui met en jeu le regard de notre société. Vous parlez du côté un petit peu cruel des choses, parce que c'est vrai que l'art, au moins, a aussi cette, c'est une manière de lire le monde, de lire les situations, de mettre en valeur aussi... c'est-à-dire nos contextes et nos manières de vivre, et quelquefois ils nous renvoient des vérités assez fortes, notamment en plus quand ils sont portés par, par des individus qui sont complètement impliqués très fortement dans cette situation. Après, je nuancerai un tout petit peu ce qu'elle disait aussi dans ses propos, c'est-à-dire que quand même il y a pas mal de compagnies, il y a quand même pas mal de choses. Si on pense chez nous, la compagnie L'Oiseau Mou, si on pense à la compagnie du Cristal, si on pense aussi à La Bulle Bleue, enfin il y a un certain nombre de compagnies en France, certes elle a raison, qui ont besoin encore de continuer à être aidées, mais qui font, la compagnie par exemple, qui est spécifiquement dans le théâtre d'ailleurs, de L'Oiseau Mouche à Roubaix, ça fait pratiquement 30 ans qu'elle fait ce travail, et il y a des comédiens qui commencent à avoir aussi un peu d'insertion professionnelle. Donc voilà, alors tout est à des niveaux forcément différents, mais là où c'est hyper intéressant, nous on se déplace beaucoup, que ce soit en Belgique, en Italie, en Chine, à plein d'endroits, ça, cette diversité, et justement aller chez les autres et se rendre compte aussi de ces situations, échanger avec eux, côtoyer, collaborer aussi avec eux, là il y a quelque chose de complètement essentiel, et aussi bien voilà, chez nos amis du Royaume-Uni ou ailleurs, là il y a des, je pense que là aussi il y a des plein de jonctions à faire et qui sont hyper pertinentes. En tout cas, on voit qu'on est nombreux à se poser la même question et que les réalités aussi se côtoient, bien sûr diverses suivant les cultures, mais en tout cas on voit tout l'intérêt de l'art aujourd'hui et de ce qu'il est à travers le temps. Il bouscule, il est là pour ça, pour réinterroger fortement aussi nos fonctionnements sociétaux et autres.
Quelques dates à noter dans vos agendas: du cirque avec les 5e Hurlant ce jeudi 29 et vendredi 30 novembre. Alors a priori, Raphaël Boitel est la révélation cirque du moment, donc on vous invite à aller voir ce spectacle. Du cirque aussi début décembre avec la compagnie des Nouveau-Nés, une compagnie que tu connais, Catherine?
Oui, que je connais, et c'est vrai que ce sont 3 clowns, donc... Si vous aimez les clowns, allez-y. Si vous ne les aimez pas, allez-y quand même, parce que vous allez découvrir vraiment du magnifique spectacle.
Alain Goudard confirme.
Absolument.
Ouais,
c'est vraiment hilarant et tout. Et je me permets juste une petite... Comme on parle de cirque, le monde du cirque est aussi en train de s'impliquer de plus en plus dans le monde du handicap. Je n'arrive pas à le dire de façon plus légère, mais...
Et donc tu as des exemples?
Ah bah oui, par exemple la compagnie Virevolt, qui est basée à Lyon et qui nous a déjà proposé au Théâtre de Bourg de magnifiques spectacles très 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 émouvants avec des personnes valides et des personnes avec des soucis techniques. Ça veut dire dans le monde du cirque, c'est plus physique aujourd'hui.
C'est vrai que vous avez raison, les arts du cirque aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives. Je pense aussi à une initiative dans la Drôme aussi, par exemple. Il y a toute une compagnie autour de Véronique Gouga. Et là aussi, depuis plusieurs années, il y a un travail de faire aussi que... Certains d'ailleurs, des musiciens des percussions de très fort, ont eu la chance aussi de travailler avec eux. Et c'était plaisant de voir certaines personnes qui avaient très facilement des épilepsies sur le sol, mais quand elles se retrouvaient à 4-5 mètres de hauteur, n'en ont jamais eu. Et donc du coup, une autre appréhension du corps, une autre appréhension de ce que nous sommes, de l'espace. On voit aussi tout l'intérêt aussi, en tout cas, de comment ça fait... En tout cas... une autre perception de soi-même, et donc du coup change complètement finalement l'être en lui-même, et lui ouvre de nouveaux possibles. Et là, je pense que c'est formidable.
Continuons donc à être curieux pour aller à la recherche de ces compagnies, ces spectacles proposés. Moi, j'en ai encore un à vous proposer du côté de la Tannerie, vendredi 7 décembre. Ce sera ambiance rockabilly, si vous avez envie d'aller bouger vos fesses. Et toi, Catherine, tu avais une date en décembre aussi?
Alors oui, moi j'ai une date, donc on revient au théâtre, théâtre amateur avec la compagnie Les Désordinaires qui présente Small Talk. C'est un spectacle issu d'un texte de Carole Fréchette avec la mise en scène de Christine Larivière. Ça se passera à la salle du Vox à Bourg le samedi 15 décembre à 20h30. C'est au profit de l'association Annapurna Népal 2005. Et vraiment, 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 c'est du haut niveau de théâtre. Je vous conseille vivement d'aller rencontrer ces amateurs et de voir de quoi ils sont capables.
Alain Goudard, une date à nous proposer?
Eh bien, le 10 décembre prochain, nous jouerons avec des percussions de très fort à l'hôtel de région, puisqu'il y a une journée justement sur le handicap, et on est invité à jouer à ce moment-là.
Donc ça se passe à Lyon?
À Lyon, le 10 décembre, au Conseil régional.
Merci, c'est la fin de notre émission. On se retrouve le mois prochain, mercredi 26 décembre. D'ici là, allez voir des spectacles, cultivez-vous!